Bonjour à tous les auditeurs de Neptune FM. C'est avec plaisir que je vous retrouve en ce 45e jour de confinement pour une nouvelle édition de l'émission Regards sur le passé, animée par le service du patrimoine de la mairie. Vous êtes avec Annabelle et nous allons aujourd'hui parler de canons, de batailles, de forts et de forteresses, de vaisseaux de guerre et de défense côtière, puisque la thématique que j'ai choisi de développer cet après-midi est du château à la citadelle, l'histoire de la défense de l'île. Nous allons en effet voir comment les îlets se sont protégés des envahisseurs, puis comment les architectes et ingénieurs militaires ont fait évoluer la défense de l'île à travers le temps, en l'adaptant au progrès de l'artillerie avec un but commun, que l'île-Dieu, île stratégique située entre l'estuaire de la Loire et l'estuaire de la Gironde, ne soit en aucun cas prise par l'ennemi. Nous voilà donc partis pour une inspection militaire qui ira de la côte rocheuse à la côte sableuse en passant par la colline de Pierre-Levé. Pour commencer, nous allons voguer jusqu'au sud-ouest de l'île, vers la côte sauvage. Comme nous avons pu le voir dans une émission précédente, le tout premier site défensif de l'île a été aménagé à la pointe du Châtelet. En effet, dès l'époque gauloise, aux alentours de 500 ans avant Jésus-Christ, la population insulaire a construit à l'entrée de cette pointe un haut et massif rempart de plus de 200 mètres de longueur. Ce rempart fermait donc l'accès à la pointe du Châtelet côté terre, les autres côtés étant quant à eux inaccessibles car bordés par la mer et par de hautes falaises abruptes. Si vous vous rendez sur place après le confinement, vous pourrez vous rendre compte de l'importance de ce rempart aujourd'hui encore bien conservé en élévation. Mais surtout, vous pourrez imaginer l'ampleur du chantier de construction qui a dû être mis en place par ces îlets il y a plus de 2000 ans, avec une conception d'ensemble de l'architecture, une méthodologie de travail et une répartition des tâches de chacun. Et si vous avancez au bout de cette pointe, là où se trouve aujourd'hui la croix du Châtelet, et que vous vous mettez dos à la mer, vous remarquerez que depuis ce point haut, qui culmine à 21 mètres d'altitude, vous avez une vue sur une très large partie de l'île. Donc non seulement ce site donnait la possibilité de défendre une population et ses richesses grâce à cet imposant rempart facilement défendable, sorte de camp retranché, mais en plus, grâce à ce point haut, il était aisé de pouvoir surveiller l'arrivée et le mouvement des ennemis potentiels. Et il est tout à fait probable que ce site ait servi pendant encore plusieurs siècles de refuge à la population. Il faut attendre le bas Moyen-Âge, et plus précisément le XIVe siècle, pour voir la construction sur l'île d'une véritable forteresse. Il s'agit de notre vieux château. Et il est très intéressant de remarquer que le site retenu pour la construction de cet édifice se trouve juste à côté de la pointe du Châtelet. En effet, si cette partie de l'île a été choisie, c'est d'une part qu'elle est plutôt centrale sur la côte, c'est-à-dire que les habitants pouvaient s'y rendre rapidement, chose qui n'aurait pas été possible si ces sites défensifs avaient été aménagés par exemple sur une des extrémités de l'île, à la pointe des Corbeaux ou à la pointe du Butte. Ainsi, par exemple, si on habitait que ce soit à Kerjigou ou à Kerguéren, il était assez facile de se rendre sur ces lieux en quelques minutes. D'autre part, ces deux sites défensifs sont aménagés sur la côte rocheuse, dangereuse et difficile d'accès pour les bateaux de l'époque qui étaient, il faut le dire, peu manœuvrables. Le château étant en plus entouré de nombreux récifs, vouloir s'en approcher avec un bateau aurait été un échec assuré. Donc, le seul moyen d'aborder l'île pour une flotte ennemie était de débarquer à l'opposé d'ici, sur la côte sableuse située entre Port-Joinville et la pointe des Corbeaux. Cette côte basse, bordée de grandes plages, était beaucoup plus accessible et permettait très facilement d'y débarquer des troupes et du matériel. Une fois à terre, les soldats ennemis devaient donc traverser l'île à pied pour venir attaquer le château. C'est pourquoi toutes les défenses de cette forteresse sont tournées vers la terre et non pas vers la mer. Depuis sa tour de guet, on voyait ses troupes arriver de loin, ce qui donnait le temps aux soldats de préparer la défense du site. Afin de résister au mieux à l'ennemi, le château a été doté de très hautes murailles. Le risque majeur était alors que l'assaillant escalade ces murs élevés pour entrer dans la forteresse. Pour éviter que cela n'arrive, il a fallu multiplier les obstacles et les dispositifs de défense. C'est-à-dire que quand l'ennemi arrivait devant le château, il se trouvait d'abord face à des douves profondes, qui en plus ici se remplissent d'eau à marée haute. Le seul accès au château était alors la passerelle, mais qui était dotée à son extrémité d'un pont-levis que les défenseurs prenaient soin de relever. Si malgré tout, les assaillants réussissaient à se rapprocher des murailles, on leur assénait des jets de flèches depuis les meurtrières aménagées dans les tours et les murs. Les tours permettaient d'ailleurs de réaliser des tirs en enfilade le long des murailles et assuraient la défense du site dans toutes les directions. Et si l'ennemi arrivait devant les maçonneries, il devait essuyer des tirs fichants avec des chutes de pierre ou de poids provenant des mâchicoulis aménagés tout en haut des murs de la forteresse. Et si malgré tout ça, les ennemis arrivaient à accéder à la porte d'entrée, là les attendaient quatre portes placées les unes derrière les autres dans un couloir, toutes quatre renforcées par des poutres massives. Et au-dessus de chacune d'entre elles étaient aménagés des assommoirs, permettant, comme leur nom l'indique, d'assommer l'ennemi par des jets de pierre. Malgré tous ces obstacles, de hautes murailles, des tours d'angle, des douves profondes, des meurtrières, des mâchicoulis, un pont-levis, quatre portes barrées par quatre poutres et des assommoirs, le château fut pris une fois en ce 14e siècle par les Anglais de Robert Knoll en 1355 et ils occupèrent même l'île pendant 37 ans. Puis, peu à peu, la pollure sceptique, qui est l'art de conduire les sièges, et oui, c'est un art, eh bien cette pollure sceptique va évoluer en même temps que l'évolution de l'armement. Et comme la défense est la fille de l'attaque, eh bien il va falloir adapter les châteaux et notamment les adapter à l'arrivée de la poudre à canon. Les canons, parlons-en justement. Dès le début du 15e siècle, les premiers exemples vont être fondus. Mais attention, les métallurgies du Moyen-Âge ne permettaient pas de fondre des canons d'un seul tenant. Ils étaient réalisés d'une manière analogue aux tonneaux, avec des pièces de fer forgé tenues entre elles par des cerclages en fer. Dans ces conditions, les tubes étaient très souvent sujets à des éclatements inopinés, dangereux voire fatals pour les utilisateurs. Pour la petite anecdote, lorsqu'un acheteur souhaitait faire l'acquisition d'un canon, il était testé 8 fois devant lui et garanti pour 400 coups, d'où l'expression « faire les 400 coups ». Bref, au 15e siècle, l'utilisation du canon se développe lors des guerres de siège. Et on suppose que c'est à cette époque que le château va être en partie repensé pour pouvoir s'adapter à cette artillerie nouvelle. Des canonnières vont notamment être percées dans ses murs et ses tours, permettant aux défenseurs de pouvoir tirer au canon sur les assaillants. Puis peu à peu, la métallurgie se développe, on découvre de meilleures techniques et matériaux pour la fabrication des canons, le bronze s'impose car il est un matériau beaucoup plus souple que la fonte et il se déforme plutôt que d'éclater en cas de surpression. De plus, l'utilisation des moules, comme pour fondre les cloches, permet de réaliser des pièces d'un seul tenant et de les produire en série avec des calibres standardisés. Le canon devient alors une arme de plus en plus mobile, pouvant tirer à une cadence de plus en plus régulière vers une cible de plus en plus précise. Et les boulets en fer, trois fois plus denses que la pierre, n'éclatent pas à l'impact et provoquent des dégâts considérables, faisant voler en éclats les maçonneries qu'ils percutent. Et encore une fois, pour résister à cette puissance de percussion, les défenses vont devoir à nouveau s'adapter. Les hautes murailles des châteaux médiévaux étant beaucoup trop vulnérables et trop faciles à percer avec ce nouveau type d'armement. Et c'est pendant la première Renaissance française, au début du XVIe siècle, que les choses vont s'accélérer. À cette époque, les rois français que vous connaissez, que sont Charles VIII, Louis XII et François Ier, vont aller faire les guerres d'Italie pour faire valoir leurs droits sur le royaume de Naples. Ces rois amènent avec eux de nombreux chevaliers et seigneurs locaux, dont les seigneurs de Rieux, propriétaires de l'île Dieu. quand les troupes françaises arrivent en Italie, elles se rendent compte que ces derniers avaient adapté leur forteresse à la nouvelle menace qu'était le canon, en construisant devant leur château fort des remparts bas en forme d'étoile. Et quand tout ce petit monde rentra en France, on ramena dans les bagages des artistes, c'est ainsi que le mouvement artistique de la Renaissance est arrivé dans notre pays, mais aussi des architectes et des ingénieurs militaires. Et c'est à ce moment-là, en plein XVIe siècle, que fut construite devant notre vieux château une nouvelle défense avancée, appelée très justement « ceinture à l'italienne », puisque ramenée de là-bas. En effet, comme je vous le disais, avec le perfectionnement des canons, notre vieille forteresse était devenue beaucoup trop vulnérable. Tout en restant à une certaine distance, on pouvait trop facilement percer une brèche dans ses hautes murailles, et ses tours ne permettaient pas de défendre l'ensemble de l'architecture, les angles morts étant trop nombreux. Grâce à la construction de cette nouvelle ceinture aménagée devant le château, on va pouvoir corriger ses défauts. Cette ceinture fut construite sur le plan d'une demi-étoile à 5 branches, avec des murailles basses. Comme ces nouveaux murs défensifs étaient bas dans le paysage, ils étaient beaucoup plus difficiles à atteindre par des tirs de canon, contrairement aux hautes murailles du château. Certes, ces nouveaux remparts étaient bas, mais comme ils étaient précédés d'un profond fossé, l'assaillant se trouvait malgré tout face à un obstacle haut et difficile à franchir. En plus, face à l'ennemi, ces murs étaient maçonnés avec des pans inclinés afin de dévier les boulets en cas d'impact. À l'arrière de ces murs massifs se trouvait un talus de terre qui permettait d'absorber les chocs provoqués par les boulets, rendant impossible la formation de brèches dans cette architecture. Cette épaisseur de terre, qui permettait de renforcer le rempart en pierre, rendait le niveau du sol beaucoup plus haut à l'intérieur de la ceinture qu'à l'extérieur. Côté défense, lorsque l'alerte était donnée, les soldats du château allaient se positionner derrière cette ceinture qui était percée sur sa partie haute de canonnière. Il était ainsi facile pour eux de tirer des boulets de canon sur l'ennemi. L'autre intérêt de cette ceinture à l'italienne était sa forme en étoile avec 5 branches. Ces 5 branches permettaient des tirs croisés, ainsi l'ensemble de l'architecture pouvait être défendu sans aucun angle mort. Et si l'attaque se concentrait sur une branche en particulier, les branches voisines pouvaient la défendre sans aucun problème. Tout ça pour retarder au maximum l'attaque contre le château lui-même. Château qui d'ailleurs ne sera jamais repris par l'ennemi dès la mise en place de ce nouveau système défensif. Cette ceinture à l'italienne permit de résister à divers sièges, comme par exemple contre les Espagnols en 1550 ou encore les Protestants en 1564. Cette ceinture a aujourd'hui traversé les siècles et elle est encore bien visible devant le château. Mais avec le temps, les murs ont été recouverts naturellement et par l'érosion de terre et de sable. Nous espérons dans un avenir proche la remettre au jour et la restaurer intégralement. Il est très rare en France de retrouver ce type d'architecture car la plupart des châteaux devant lesquels elles ont été construites se trouvent aujourd'hui en milieu urbain. Elles ont donc dû laisser la place à des routes ou des maisons et elles ont complètement disparu. Quoi qu'il en soit, ces ceintures à l'italienne, avec leur architecture angulaire, furent une innovation capitale. Vauban améliora d'ailleurs largement ce système sous le règne du roi Soleil. Le roi Soleil. Parlons-en à présent. Pendant son règne, les guerres vont se multiplier, et notamment les guerres maritimes contre la Hollande, les Espagnols, les Anglais, les Suédois, les Danois, et j'en passe. De plus, les corsaires mettaient en péril les navires marchands et ébranlaient les côtes de France. En ce XVIIe siècle, le canon va quant à lui continuer à être perfectionné, de plus en plus puissant. Il peut tirer de plus en plus loin, permettant de projeter un boulet à presque 1 km. Notre vieux château et sa ceinture extérieure se trouvaient donc à nouveau dépassés. Avec une portée d'un kilomètre, les canons pouvaient être positionnés bien en amont du site et donc facilement détruire la forteresse. Et depuis la mer, tout en restant au large, des bateaux pouvaient très facilement venir à bout de ces hautes murailles. À cette époque, l'île appartenait à une femme, Jeanne Pélagie de Rieux. Devenue veuve quelques années après son mariage, elle se rapprocha d'une personnalité de son temps, Nicolas Fouquet. le fameux ministre des Finances de Louis XIV. Elle s'en rapprocha tellement que dans certains textes, il est possible de lire qu'elle était sa secrétaire particulière. On pense que c'était avec tout ce qu'il y avait de particulier, puisqu'elle était vraisemblablement sa maîtresse. Fouquet est également propriétaire de Belle-Île, et ensemble, ils vont mettre en place un complot contre le roi, appelé le complot de Saint-Mandé, consistant notamment à remettre en défense leurs deux îles pour s'y protéger en cas de disgrâce du roi. C'est d'ailleurs lors d'une perquisition dans son château de Vaux-le-Vicomte que le roi retrouva derrière un tableau ce complot écrit noir sur blanc, ce qui pèsera largement dans la balance lors de son procès. Bref, c'est à cette époque et sous l'impulsion de Jeanne Pélagie de Rieux que la défense de l'île va être complètement repensée. Le château et sa ceinture étant devenus obsolètes à cause de la portée importante des canons et ne permettant pas d'empêcher un débarquement sur l'île, il va être décidé de mettre en défense la côte sableuse, là où s'opéraient les débarquements ennemis. On va donc construire, entre Port-Joinville et la pointe des Corbeaux, sept redoutes côtières à figure triangulaire armées de canons. On passera alors d'une défense passive avec le château dans lequel on attendait que les ennemis débarquent en s'enfermant dans la forteresse et en la défendant, à une défense active avec ces nouvelles redoutes côtières qui permettaient de tirer sur les bateaux en approche et d'éviter ainsi tout débarquement sur l'île. Parmi ces défenses côtières, une portait un nom assez poétique. Elle s'appelait la redoute des yeux ouverts, nom qui se transforma avec le temps pour donner aujourd'hui son nom à la plage des Auverts. Comme le château était devenu inutile, les soldats vont être transférés dans ces nouvelles redoutes et le gouverneur qui y habitait jusqu'à présent se fera construire une grande maison dans la capitale de l'île de l'époque qui était Saint-Sauveur, juste devant l'église. Bref, en cette fin de XVIIe siècle, le château est complètement abandonné. Louis XIV signa en 1670 un décret stipulant que tous les châteaux côtiers qui se trouvaient entre la Loire et la Gironde et qui n'étaient plus occupés militairement devaient être démantelés. C'est à cette époque que furent par exemple détruits les châteaux de Beauvoir-sur-Mer ou des Sables-d'Olonne, mais aussi, bien évidemment, le château de l'Île-Dieu. Grâce à ces nouvelles défenses côtières, l'île résista encore un temps à l'ennemi. Puis, les années passèrent, les bateaux devinrent de plus en plus manœuvrables, et nous voilà à présent arrivés au début du XIXe siècle avec Napoléon. En 1803, avec la rupture de la paix d'Amiens entre la France et la Grande-Bretagne, la menace anglaise grandit, encore une fois, et la défense des côtes va être l'un des sujets majeurs de préoccupation de Bonaparte. Fin 1803, il envoie sur l'île le général de brigade Henri Bertrand en vue d'établir un nouveau projet de défense insulaire. Henri Bertrand reste sur l'île plusieurs mois, il l'étudie sous toutes ses coutures et début 1804, il rend à Napoléon un rapport où il préconise de créer autour de l'île une véritable ceinture de feu, avec l'installation de batteries de côte sur tout le pourtour côtier à effet de dissuasion. En effet, les bateaux étant beaucoup plus manœuvrables, un débarquement ennemi pouvait être envisagé même sur une petite plage comme à la plage des Sabias par exemple. Il préconise également la construction d'un fort central sur la hauteur des deux moulins, également appelé hauteur de la pierre levée qui domine les alentours à 21 mètres d'altitude. L'intérêt de ce point était qu'il se trouvait tout proche de Port-Joinville, à l'époque port breton, port principal de l'île, d'où l'on pouvait facilement acheminer les matériaux de construction, mais aussi les troupes de renfort en cas de coup dur. La fonction des défenses côtières était donc de retarder au maximum l'attaque contre la forteresse elle-même située en retrait des côtes, et ainsi résister suffisamment longtemps en attendant les secours du continent. En ce début d'année 1804, les choses se précipitèrent rapidement et devant la menace anglaise grandissante, Bonaparte déclara l'Île-Dieu en état de siège le 13 avril 1804. C'est un peu comme si on déployait aujourd'hui le plan Vigipirate rouge ou même écarlate. La menace était tellement importante qu'il envoya sur l'île quelques jours plus tard un contingent de 1500 soldats toutes armes confondues. On travailla dans la hâte à la construction du fort central, ce tout premier fort, construit bien avant la citadelle que nous connaissons aujourd'hui, était composé d'un quadrilatère central formé de murs en pierre sèche de 3 mètres de hauteur, servant de magasin à poudre, et en avant de ses angles furent aménagés 4 bastions en terre, ainsi qu'une lunette à l'extrémité est et une flèche à l'extrémité ouest, derrière lesquelles furent placés 21 canons. Ce premier fort était beaucoup plus étendu que le fort actuel, puisqu'il s'étendait sur l'ensemble de la zone où se trouve aujourd'hui le bois de la citadelle. 15 nouvelles batteries de côte furent également construites, et grâce à des tirs croisés de canons, elles pouvaient défendre l'ensemble du pourtour de l'île. Elles étaient composées d'un parapet taluté, sorte de butte de terre et de pierre située face à la mer, derrière laquelle on plaçait 1 ou 2 canons. À l'arrière de ce parapet était construit un petit bâtiment qui servait de corps de garde où les soldats pouvaient s'abriter et se réchauffer avec une cheminée. Et au fond du bâtiment se trouvait une petite poudrière qui permettait d'alimenter les canons. On peut encore voir aujourd'hui d'ailleurs les vestiges d'une de ces batteries de côte entre la carrière et le port de la Meule. Puis le temps va passer encore un petit peu. Et au milieu du 19e siècle, en 1849, le ministère de la Guerre alerte sur l'état de vétusté du fort central de Pierre-Levé. En effet, ce dernier, construit à la hâte 45 ans plus tôt, sans fossé ni revêtement d'ensemble, rendait la position vulnérable. Et c'est ainsi que fut décidée la construction du nouveau fort de Pierre-Levé, dont le chantier débuta en 1858 pour s'achever en 1866. Ce fut un chantier pharaonique pour une petite île comme l'Île-Dieu. Cette nouvelle citadelle est vraiment l'aboutissement de l'architecture défensive. Elle est composée d'un fort carré semi-enterré, ce qui signifie que ses maçonneries invisibles dans le paysage et très basses ne peuvent pas être percées par des canons ennemis ou très difficilement. À chaque angle de ce fort ont été aménagés des bastions permettant de défendre les courtines et les douves. En effet, des douves sèches d'environ 10 mètres de profondeur entourent cette structure centrale, obstacle infranchissable, et le seul point d'accès au fort est là aussi un pont-levis. Mais très vite, à son tour, cette citadelle va être dépassée par l'évolution de l'artillerie et notamment par l'apparition du canon rayé. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais alors, pourquoi s'évertuer pendant toutes ces années à mettre au point des techniques de défense aussi onéreuses et aussi importantes sur notre toute petite île ? Comme je vous le disais, l'Île-Dieu était un point stratégique situé entre l'estuaire de la Loire et de la Gironde. Autrefois, le commerce par voie maritime à l'époque de la marine à voile était très important entre ces deux fleuves. Si les ennemis avaient réussi à prendre l'Île-Dieu, ils auraient bloqué cette navigation commerciale, ce qui aurait eu des répercussions économiques considérables pour le pays. De plus, ces bateaux ennemis auraient aisément pu y faire de l'eau, y trouver des vivres, y soigner leurs malades, réparer leur bateau et surtout y préparer facilement un débarquement sur les côtes de France. Peu importe le prix, il ne fallait pas que cette île soit prise par l'ennemi. J'espère que ce tour d'horizon de nos défenses insulaires vous aura plu. Comme nous avons pu le voir, l'arrivée du canon et son perfectionnement a nécessité l'adaptation continuelle de nos défenses. D'un château fort aux hautes murailles, l'architecture s'est transformée pour aboutir à une citadelle semi-enterrée, impossible à abattre même avec des canons plus puissants. Je vous remercie énormément pour votre attention et je vous souhaite une bonne soirée. Prenez bien soin de vous et à bientôt !